Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cet audio consacré à l'énergie sexuelle. Alors, peu importe l'origine, de que ce soit nos traumas de cette vie, de notre enfance, ou que nous portons les charges générationnelles de nos différentes lignées, ou parce qu'on a des vies antérieures karmiques qu'il va falloir comprendre plutôt qu'utiliser le mot réparer, plutôt comprendre dans cette vie, eh bien notre blessure du féminin va s'exprimer principalement par des problématiques d'ordre sexuel. Et parce que je ne me trouve pas tout à fait légitime pour en parler, j'avais un petit peu éludé la question. Bien entendu, ce sont des problématiques qui sont liées aux organes, et ça je peux en parler, je peux parler des mots qui y sont, mais je n'avais pas du tout envie de prendre un petit peu le manteau de la thérapeute sexuelle pour pouvoir en parler. Et arrivé à la fin de la préparation de ce chapitre sur l'intégration, ce n'était plus du tout possible pour moi en fait d'essayer de faire autre chose. J'ai pris un petit peu de retard dans l'édition, je m'en excuse, parce que justement il fallait que j'en parle. C'est comme ça, donc c'est pour ça que cette page est née, qui va cibler non pas les traumas et la façon d'en guérir de type sexuel, mais plutôt d'aller pointer de ce qu'est l'énergie sexuelle, pourquoi on a eu un trauma de ce genre-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui a eu suffisamment d'attrait en fait pour vouloir forcer d'être pris en fait. Pourquoi cet abus-là en particulier? Et pourquoi nous? Qu'est-ce que cette énergie sexuelle a de si intéressant finalement? Parce que c'est aussi ça qu'on vient chercher chez l'autre, qu'on vient prendre, emprunter. Et nous allons voir ça dans cet audio. Alors, ces problématiques-là, on en a vu en fait quand on en a parlé de la blessure du féminin. Elle peut être liée à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses au niveau des organes, une dysfonction de l'organe, une maladie. Mais ça peut être aussi l'absence de partenaire, quand on en recherche un, pas quand c'est choisi, mais quand on n'y arrive pas. Donc une solitude qui n'est pas voulue, une solitude qui est bien connue en fait du parcours flamme jumelle, notamment du côté des chasers, mais pas uniquement. En tout cas, si vous êtes dans ce parcours, vous savez de quoi je veux parler, cette fameuse solitude hyper pesante que l'on retrouve dans tous les plans de notre vie, donc qui s'insinue clairement partout, et qui n'est pas que dans la vie romantique amoureuse. C'est celle de se sentir seule, isolée, au travail, parmi des collègues par exemple, auxquels on ne sent aucune affinité, aucun lien. Ou parfois on peut le ressentir dans des cercles d'amis, dans la famille bien sûr. Et cette solitude-là n'est pas que matérielle, n'est pas que visible dans la matière, donc quelqu'un qui est isolé en forêt par exemple. Elle est d'ordre du ressenti aussi, c'est-à-dire qu'on peut être vraiment très entouré, avoir plein de monde autour de soi, et pourtant se sentir totalement incompris, sans lien en fait, et totalement seul. C'est encore ici une question de sa juste place, de trouver son juste groupe qui est en lien avec cette blessure. Mais puisqu'on parle d'énergie sexuelle, on va s'arrêter 2 minutes sur le domaine amoureux, parce que c'est vraiment cette problématique du célibat et de l'énergie sexuelle qui n'est pas utilisée. Donc un non-usage de cette énergie. Et si elle est non utilisée, elle va forcément être détournée. C'est comme une inondation. Quand on a beaucoup d'eau, il va falloir à un moment donné que cette eau s'écoule. Et la plupart du temps, on comprend bien que cette énergie-là va s'écouler à travers l'action de l'acte d'amour. Mais quand il y a le célibat, on ne va plus du coup l'utiliser, elle ne va plus circuler, et ce n'est pas une énergie qui peut être infiniment stockée. parce qu'elle va brûler et elle va commencer en fait à s'échapper. Elle va alors partir dans d'autres fonctions, comme la colère et l'agressivité, par exemple, très fréquemment, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Ça peut être aussi, quand je parle de brûler comme ça, une sorte d'hyperactivité. Deuxièmement, les problématiques liées à l'activité sexuelle pure, donc physique, au niveau du coup des douleurs lors de l'acte, des maladies qui l'entourent, donc transmissibles, mais aussi par exemple les infections que l'on peut avoir à force de pratique, etc., etc. Ça peut être aussi de l'ordre du désordre relationnel, où les partenaires n'arrivent pas à s'entendre sur le plan sexuel. Il peut aussi s'agir de la dévalorisation par son partenaire qui juge, ou nous qui avons peur en fait, qui nous juge, pas simplement parce qu'il le fait, mais aussi parce que l'on va craindre qu'il le fasse. Il s'agit aussi de toutes sortes de problématiques liées à la répulsion, à la sensation de salissure, au mépris des désirs de l'autre, de s'en moquer, de le rabaisser, etc. Le jugement également de ce qui est conforme ou moral dans les ébats amoureux. Donc là, on ne juge pas l'autre sur ce qu'il aime, mais on juge l'autre sur ce qu'il aime, ce qu'il voudrait, ce qu'il désire. Troisièmement, il y a, donc on a vu la non-utilisation, l'utilisation problématique. Il y a aussi l'insatisfaction sexuelle, où la sexualité est présente, mais totalement routinière, comme une corvée qui est faite sans joie, sans intérêt, aucun. Et une quatrième pour finir, la problématique de l'absence du désir. On n'a aucune envie en fait, c'est même pas juger telle envie ou telle envie s'il n'y en a pas. Tout ce que je viens d'énumérer, et que j'ai passé sous silence mais qui ont un rapport, parce que je n'ai peut-être pas pensé à tout, mais en tout cas tout cela, ces quatre sortes-là de problèmes liés à l'énergie sexuelle, eh bien, ce n'est pas du tout naturel. Ce sont des limitations au processus de complétude de ce qu'on appelle l'union sacrée, l'amour sacré, la sexualité sacrée. Une autre façon de parler, quelque part, de la réalisation de l'individu, et donc de la réalisation de l'âme, de son épanouissement. Et comme je le reprécise de temps en temps, que l'on soit femme ou homme, peu importe. Bien que j'appelle cela la blessure du féminin, parce que c'est les femmes qui sont plus touchées par rapport à l'histoire, par rapport à beaucoup de choses, on voit bien que de nos jours tout est remis en perspective, que ce soit la question de genre, que ce soit au niveau des vies antérieures. Bien sûr qu'on a eu des vies antérieures où on était d'un autre genre, et c'est beaucoup beaucoup plus complexe que cela, on le voit, hein. C'est vraiment une question sociétale qui est soulevée également au plan de l'âme. Et les hommes peuvent aussi porter cette blessure du féminin. C'est un peu plus rare, mais c'est tout à fait possible. Et en général, quand on regarde les blessures de trahison, les blessures d'abandon et la blessure du féminin, ce sont des blessures qui sont données par le sexe différent, en fait, par le genre différent. Donc si vous êtes une femme, c'est votre père qui vous a transmis cette blessure. Et on le voit notamment avec la blessure du féminin, parce que c'est un mauvais usage ou une absence d'utilisation de l'énergie masculine, parce qu'on ne sait pas le faire. On ne l'a pas enregistré, on n'a pas été témoin d'un bon usage. Il n'y a pas eu d'exemple. Donc, un homme, notre père, qui n'a pas montré une bonne utilisation de l'énergie masculine, prouve que lui-même ne sait pas l'utiliser. Donc il a cette blessure-là de ne pas savoir utiliser son énergie propre. Ok. Donc, les hommes peuvent la porter aussi. Cette énergie sexuelle, là, elle peut être bloquée, ou comme on l'a vu, limitée, ou alors coupée, totalement bloquée, coupée, ou alors elle peut être présente de façon excessive, un trop-plein, parce qu'on ne peut pas, c'est du, comme je le disais, on ne peut pas la stocker. Dans la réalisation de l'être, lorsque cette énergie est bloquée, la personne a des difficultés à poursuivre son épanouissement, sa réalisation. Elle n'a pas l'envie, elle n'a pas la force ou elle n'a pas la volonté de poursuivre ce but, de faire, d'oser. Sa puissance est totalement hors de portée pour elle. Ou alors, autre cas de figure, elle cherche à se réaliser, mais à travers les autres et pas par elle-même. Et on voit ça surtout en fait chez les mères qui s'oublient et qui se projettent. Alors je dis les mères, c'est aussi les pères, c'est les parents qui se projettent comme ça dans leurs enfants. Et cela inclut finalement la manipulation, de leurs enfants de façon consciente ou inconsciente. Hein. Celui qui abuse n'est souvent pas conscient de ce qu'il fait. Il joue très très bien le rôle qu'on lui attribue, il se pose aucune question, il fait un petit peu ce que l'univers lui demande de faire. Il le fait super bien. Ça, voilà. Du coup, c'est souvent de façon totalement inconsciente. Pour les hommes, la réalisation de l'âme est détournée par la pression sociale qui va leur demander en fait de performer au travail, dans leur carrière, notamment ces endroits-là où ils doivent monter absolument les échelons, parce que du coup on ne peut pas, pour un homme, se contenter de l'emploi bas de gamme, etc., où il rentre le soir sans y penser. Au bout de 5-10 ans, on va se demander, mais il y a un problème avec toi, qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas finalement? Donc ils sont obligés de performer comme ça dans leur carrière ou dans le sport. S'ils commencent à faire du sport, ils doivent tout de suite avancer, soulever des poids de plus en plus lourds et tout. Ils ne peuvent pas rester en fait. C'est exactement la même chose que l'on voit dans la vie politique. Les politiques ne vont jamais rester maires, ils vont toujours commencer après à chercher autre chose, députés, ministres, etc., etc. Le but est d'avancer, de ne pas s'arrêter. Mais voilà, ça se mélange forcément avec d'autres blessures, notamment la blessure du masculin, et je ne vais pas partir là-dessus. Si j'en parle, c'est pour ne pas installer le féminin dans une posture de victime, où même le spirituel, en fait, et le monde spirituel de la spiritualité s'acharnerait vraiment sur elle, parce qu'elle est une femme, et que du coup, que ce soit dans la matière, ou que ce soit même dans le monde spirituel, eh bien, pas de salut, tu es la victime, tu dois avoir mal, etc. Ça, c'est faux. Nous avons tous affaire à résoudre des choses, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, on a tous nos blessures. Donc, il y a comme toujours une problématique de limitation de l'énergie sexuelle ou d'excès. Dans ce cas, nous ne parlons pas d'hyper-réalisation, hein, dans le cas de l'excès, mais plutôt vous savez, cette spirale-là d'entraînement du tentateur qui va fausser en fait la direction de l'âme et va finalement comme ça amener l'individu à sa perte. Dans cet excès-là d'énergie, c'est comme être pris dans les filets de la tentation, hein, comme on peut vraiment l'imaginer avec d'autres abus tels que la drogue quand on commence dedans. Après, voilà, c'est une spirale infernale. Et l'énergie sexuelle, eh ben, c'est vraiment ça. Au niveau de l'excès, il n'y a pas cette personne qui va utiliser tout ça pour se réaliser totalement, mais qui risque de tomber dans les filets du piège des tentations. Dans les deux cas, en tout cas, l'énergie sexuelle est détournée de son usage, qui est fait pour servir l'âme. Car l'énergie sexuelle, si elle est effectivement facilement classable en tant qu'énergie comme ça de conception et d'enfantement, c'est comme ça qu'on le voit plus facilement, même si elle ne se limite pas bien sûr à cela, et ben c'est une force d'alimentation plus globale de la créativité, de la création. Donc pas uniquement de la création physique, comme faire des enfants, vous l'aurez tous compris, ou de l'art, la créativité de l'art, mais aussi dans la créativité spirituelle, de l'expression de soi et de la réalisation de soi, donc la réalisation de sa vie finalement. Donc l'énergie sexuelle est bel et bien détournée de son but, de son essence, et pour les religions qui ont été les premières finalement à soulever ces questions-là, même si du coup elles ne demandaient pas une réflexion là-dessus, mais une obéissance un petit peu aveugle à des règles, eh bien il s'agissait pour elles d'un détournement de type démoniaque par exemple. Pour d'autres, ils vont plutôt le voir comme un détournement d'entité. Pour d'autres encore, des détournements d'égrégores, etc., de la magie noire, blablabli, blablabla. Mais finalement, en fait, on s'en fiche. On s'en fiche parce que l'important est de remettre la main dessus et d'en reprendre le contrôle total. Donc on s'en fout qui c'est qui l'a pris. En fait, on n'a pas besoin de toquer à sa porte et de lui demander « Écoute, est-ce que tu pourrais me la redonner ?» C'est « On la prend, on la laisse plus partir. » C'est tout simplement comme avoir un tuyau d'arrosage dans le jardin. Peu importe si ça coule chez Claude, chez Michel, chez Jeannette, on s'en fiche. On va couper l'eau et ramener ça chez nous. Donc, reprendre le contrôle de son énergie sexuelle, au final, c'est à se demander si, quand on commence à vraiment réfléchir dessus, et lorsque j'ai écrit cette réflexion-là, si c'est pas finalement tout ce que signifie en fait la souveraineté. Reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle de sa puissance même. Ou comme on le nomme ici tout au long de cet atelier, polir notre joyau. On peut puiser sa force dans beaucoup de domaines. La force d'un être, comme l'argent. Puiser sa force quand on est richissime. Et d'ailleurs, on pourra ensuite, de votre côté, regarder qu'il existe un énorme lien entre la sexualité et l'argent. Mais aussi, il y a la force qui nous vient de notre respiration. Quand on ne respire pas ou quand on respire mal, ou un air un petit peu plus mauvais, bien du coup, on est diminué. On le sent tout de suite. Alors ça, bien entendu, hein, les sages yogiques nous le disent depuis des millénaires. Il est aussi question de puiser notre force dans une alimentation saine, mais aussi de nous entourer de beau, de beauté, de nous entourer de relations positives et nourrissantes, etc., etc., etc. Mais peu vont nous dire que nous tirons notre force de notre énergie sexuelle. Enfin, ce n'est pas tant un oubli que plutôt un non-apprentissage ou une déformation qui fait que ces croyances qui sont encore imprimées en nous, pour éviter l'excès dont on a parlé, eh bien la sexualité a été totalement bridée et on n'a pas encore totalement lâché la grappe en fait à l'utilité en fait tout simplement de l'énergie sexuelle, hormis du coup celle de prendre du plaisir ou d'enfanter tout simplement. Sinon on va jamais nous dire qu'il y a d'autres utilités et que notamment on peut s'en nourrir. On parle parfois d'éliminer des tensions, etc. On ne parle jamais du fait que c'est nourrissant, nourrissant au plan de l'âme. Donc, on nous dit d'éviter l'excès, certes, on comprend, parce qu'on n'a pas envie de tomber dans les filets tentateurs et de perdre, c'est pour une fois, totalement le contrôle. Et pour éviter ça, on nous dit, ben, on arrête totalement. Mais, comme pour tout, c'est bien entendu la voie du milieu qui est la bonne, celle de l'équilibre, et donc, il nous faut retrouver une sexualité équilibrée, un chakra sacré équilibré et une énergie comprise et correctement employée pour qu'elle soit nourrissante. Et on pourrait se demander d'ailleurs pourquoi les religions ont tout simplement choisi d'annihiler l'énergie sexuelle plutôt que d'essayer de parler d'équilibre, si ce n'est qu'inconsciemment cette énergie de création a peut-être la puissance de faire de chaque individu des dieux en fait. Des dieux créateurs et qu'il faudrait peut-être uniquement réserver ce domaine-là de la création au Dieu unique et que du coup l'énergie sexuelle est peut-être tout simplement blasphématoire. C'est nous prendre pour des dieux. Dans tous les cas, nous voyons bien que la seule solution pour notre épanouissement est de nous réapproprier notre énergie sexuelle, de la récupérer pour soi, pour notre âme. Et ça, nous pouvons le comprendre au niveau de la logique, au niveau du mental. Mais si ce questionnement arrive ici, au cinquième chapitre, c'est pas parce que j'ai lutté de tout cœur pour éviter d'en parler, c'est que je fais ce qui se présente à moi, et la question que je me pose, c'est pourquoi c'est maintenant? Pourquoi là, maintenant? Alors oui, on a appris énormément de choses, et peut-être qu'on avait besoin d'apprendre toutes ces choses-là pour pouvoir avancer, mais pour moi, l'intégration, ce n'est pas suffisant de simplement comprendre les choses. Il nous faut l'intégrer. C'est-à-dire le vivre, le faire passer par le corps, l'incarner. C'est l'expérimenter, et pas seulement sur le plan de l'âme, mais sur tous les autres plans. Pardon. Oui, sur toutes les autres dimensions en fait de notre être. C'est ça vraiment intégrer. Et c'est pas uniquement comprendre sur le plan du mental. Pas le plan de l'âme, mais sur le plan du mental. Et forcément, en fait, passer par une modification de notre zone sexuelle, c'est-à-dire par la modification, la transformation de la perception de cette zone, la façon dont on l'imagine, qu'on imagine son intérêt, nos comportements vis-à-vis d'elle, eh bien, va nous permettre de retrouver un accès à cette énergie qui s'y déploie. Et cela passe par un questionnement sur notre croyance, sur nos croyances sexuelles. Et la question de pourquoi faisons-nous l'amour? Chacun, chaque personne le fait pour d'autres raisons. Quelles sont les vôtres? Nous pouvons y répondre globalement. Moi, en général, je fais l'amour parce que. Mais aussi, à chaque fois que nous nous apprêtons à avoir une activité sexuelle. Tiens, là, dans ce cas, qu'est-ce que je veux? Pourquoi je le fais? Cela peut être un désir conscient de faire un enfant. Première des raisons religieuses que du coup on va nous dire ok c'est bon tu peux le faire. Ça peut être tout simplement un besoin animal, instinctif, qui est lié en fait finalement à la programmation de notre espèce et donc ça revient de nouveau à se reproduire même si c'est inconscient, donc consciemment faire un enfant ou inconsciemment. Cela peut être une recherche de perception, de sensualité, de plaisir. Ça peut être une recherche de détente qui est offerte par, en fait, le bain hormonal offert par l'orgasme. Ça peut être en but d'exploration, de curiosité, de faire plaisir à l'autre. Ça peut être un devoir, une forme d'obligation. En fait, la zone sexuelle est la plus représentative du corps et de la chair. D'ailleurs, on parle bien des plaisirs de la chair pour cet endroit-là. Et c'est en fait une erreur de ne pas s'en occuper lorsqu'on recherche à guérir, à ascensionner ou à s'initier, à en fait avoir une spiritualité plus haute, plus fine et peut-être plus intense. Parce que le corps est bel et bien le miroir de l'âme, toutes les religions le disent, plutôt toutes les spiritualités le disent, et la zone sexuelle est la clé de la libération de nombreux blocages et surtout de notre limitation mentale. Du coup, en s'attaquant à récupérer notre énergie sexuelle, finalement notre chair, nous accédons à l'énergie de l'âme, à la complétude, la plénitude, à la paix sereine. Et c'est pour ça que on peut en avoir envie, parce que finalement c'est peut-être ça qui se cache derrière. Envie d'une complétude, envie de se sentir complet, parce que les désirs de l'âme se reflètent dans les désirs de la chair et vice-versa dans les deux sens. Dans la suite de cette page où vous trouvez cet audio, eh bien vous allez voir un petit exercice de questionnement sur votre sexualité, ainsi qu'un soin énergétique. Je vous remercie d'avoir participé à l'écoute de cet audio, et comme d'habitude, vous connaissez maintenant le principe, je vous dis à très vite pour la suite.